Je vais vous faire une confidence. Depuis mes années à l'université, mes anciens colocs m'appellent le Cookie Monster. Ils savent que pour me faire plaisir, les biscuits, ça va toujours bien aller. J'ai toujours été comme ça. Même quand j'étais tout petit, les biscuits ont toujours été une de mes gâteries préférées. Mais quand j'étais enfant, tout ce que je connaissais, moi, c'était les biscuits un peu trop secs et beaucoup trop transformés qu'on trouve à l'épicerie. J'habitais sur la rive sud de Montréal. Je devais avoir, quoi, 11 ou 12 ans, quand Félix et Norton a ouvert un comptoir pas trop loin de chez moi. C'était la première fois de ma vie que j'étais mis en contact avec des biscuits tendres. C'était comme un autre univers qui s'ouvrait à moi. Puis à chaque fois que j'en mangeais, c'était comme un événement. Il y avait peut-être l'effet de nouveauté, ok, mais encore aujourd'hui, quand j'en mange, c'est encore le même feeling que je ressens. Le côté un peu mi-cuit, fondant. Si c'est pas ça, se payer la traite, là, je sais pas ce que c'est. Alors, aujourd'hui, le Cookie Monster en moi apprend que Félix & Norton, une compagnie montréalaise, soit dit en passant, fait la livraison à domicile. Je dirais que c'est l'une des rares bonnes nouvelles de 2020. Vous pouvez faire comme moi puis aller au felixandnorton.com, cliquer sur Livraison Montréal. Si vous habitez dans la grande région de Montréal, vous pouvez commander jusqu'à 21h et vous allez recevoir vos biscuits dès le lendemain, garanti. En fait, ce qui vous est livré, c'est la pâte à biscuits, qu'elle soit fraîche ou congelée. Comme par exemple celle du fameux ménage à trois. Vous savez, celui là aux trois chocolats. Donc, vous pouvez faire cuire la quantité de biscuits que vous voulez, quand vous voulez. Et en tant qu'auditeur du sport athlétique, vous pouvez obtenir 10% de rabais sur votre première commande en utilisant le code HOCKEY, en allant, une fois de plus, au felixandnorton.com et en cliquant sur Livraison Montréal. Bon appétit! Bonjour tout le monde, bienvenue au Support Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Arpin Basu. Arpin, on approche pas la fin du camp d'entraînement, mais au moins la portion du camp d'entraînement qui a lieu à Brossard. D'emblée, je t'inviterais à me dire qu'est-ce qui a retenu ton attention durant la deuxième semaine de ce camp-là.
Ben en fait, c'est pendant la deuxième semaine qu'on commence à peut-être voir ou peut-être juste apercevoir, disons, des petits indices que Claude Julien laisse glisser dans ses paroles et dans la composition de ses trios et ses duos en défense. Tu sais, je pense qu'on s'entend qu'il y a pas énormément de temps de faire des expériences, d'essayer des choses qu'il n'y a pas vraiment l'intention d'utiliser pendant la série contre les Pingouins, vu qu'il reste quoi, une semaine, un peu plus qu'une semaine avant le premier match. Alors, c'est vraiment pas le temps de niaiser. Alors, je pense qu'il y a des choses qu'on peut voir, ce qu'on a vu cette semaine, effectivement, qui nous donnent des indices à ce qu'il pense faire. Puis je pense qu'un des plus gros, c'est depuis l'arrivée de Max Domi. Mercredi, on a vu à l'entraînement que Max Domi était entre Dale Weiss et Jordan Wheel et que Jake Evans était un peu écarté du top 4, puis que Jesperi Kotkaniemi a gardé sa place entre Arturi Lehkonen et Paul Byron, ce qui était un peu surprenant à mes yeux, juste parce que, je le répète, Claude Julien n'a pas le temps de niaiser s'il avait vraiment l'intention de jouer Max Domi entre Lehkonen et Byron, comme je pense que toujours tout le monde présumait. Je pense qu'il l'aurait mis là dès mercredi. Et effectivement, alors il y a deux choses à retenir là-dedans. C'est premièrement que Kotkaniemi a l'air d'avoir gagné sa place sur ce trio-là. Ça reste à voir. Je pense qu'il y a beaucoup qui reste à déterminer entre ici et puis le premier match. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être ça. Et en plus que Jake Evans est un peu à l'écart en ce moment, qui me surprend aussi, étant, si tu te rappelles ce que Marc Bergevin a dit à la date limite des échanges, comment il voit Jake Evans comme une grande partie de leur futur, puis qu'il a hâte de l'évaluer dans le rôle du quatrième centre. Je pensais que ça allait tenir pour cette série-là, mais tout le débat sur est-ce qu'on déplace Domi à l'aile, est-ce qu'on le garde à centre, ça a l'air, pour l'instant au moins, d'être un peu réglé avec les trios qu'on a vus mercredi.
Ouais, moi, effectivement. Moi, d'abord, à propos de Jake Evans, pour moi, c'est une énorme surprise. Écoute, le fait que le Canadien n'ait plus Nate Thompson est forcé de se tourner vers un autre type de joueur pour pouvoir compléter son quatrième trio et d'avoir un centre avec des bons instincts défensifs qui est capable de gagner des mises en jeu, ça m'apparaissait tomber sous le sens là, que Jake Evans allait être le genre de joueur qui aurait ce mandat-là pour le début de la série. Donc, de le voir à l'heure actuelle sur les lignes de touche, je suis abasourdi de ça. Mais écoute, ça va probablement confirmer, parce que tu as écrit durant cette semaine, le fait que le Canadien allait peut-être devoir se tourner vers un genre de quatrième trio atypique et contraire à ce que Claude Julien aime traditionnellement. Puis je pense que ça, c'en est un parfait exemple. Alors, mais quand même, tu sais, Evans n'étant pas là, c'est vrai que ça ouvre la porte à Jesperi Kotkaniemi, mais honnêtement, à mes yeux, je ne peux pas concevoir que Max Domi va rester au centre du quatrième trio. Il est là pour être graduellement remis dans le bain, mais également, je le vois comme une façon de donner quelques jours de plus à Kotkaniemi pour se faire valoir. Mais en temps et lieu, je serais pas du tout surpris de voir Domi prendre sa place sur le troisième trio et que finalement, Kotkaniemi se retrouve sur la quatrième ligne.
Oui, mais si c'était le cas, honnêtement, c'est. Je pense que le point, ça vaut la peine de le renforcer un peu, c'est que, tu sais, on peut même compter les entraînements qui restent. Disons, OK, il y en a un vendredi, il n'y en a pas samedi, c'est une journée de déplacement, si je ne me trompe pas. Et après, ils vont arriver à Toronto. Je ne suis pas certain c'est quoi l'horaire de l'entraînement une fois rendu à Toronto, mais. Il doit avoir une petite pause, un petit délai après l'arrivée, puis quand ils vont avoir le droit de sauter sur la glace.
Ils vont certainement congé dimanche, là, ça c'est sûr.
Ils vont certainement avoir congé dimanche, puis je connais pas les règlements, mais il doit avoir un petit délai pour faire des tests, puis faire tout s'assurer que tout le membre de l'équipage, les 52 ou 51 personnes qui s'en vont avec le Canadien, va falloir subir des tests et faire tout ce processus-là va prendre du temps. Alors, puis mardi, ils ont leur premier match préparatoire contre les Leafs. Ça ne me surprendrait pas qu'il y a peut-être un entraînement avant ce match-là. Puis après ça, c'est vraiment les préparations finales pour la série. Alors, c'est pour ça que ce qui m'a surpris, moi aussi, je suis surpris que Max Domi se retrouverait là mercredi à l'entraînement. Mais c'est vrai que, tu sais, d'une certaine façon, ça démontre un peu, peut-être, ça ouvre le jeu de Claude Julien un peu de comment il a l'intention d'attaquer les Pingouins parce qu'effectivement, il n'y a pas un quatrième trio qu'il aurait aimé avoir. Ça me surprend un peu de voir les ailiers, que les ailiers soient pas un peu plus mélangés. C'est ça que moi, je penserais faire. Tu sais, vraiment essayer d'équilibrer les deux derniers trios parce que ça a l'air que Drouin, Suzuki, Armiov et la façon que Claude Julien a parlé de ce trio-là toute la semaine soit l'air vraiment coulé dans le béton. Mais essayer de tu sais, disons, mettre Byron ou Lekkonen sur le 4 puis vraiment donner un peu plus d'équilibre aux deux trios, ça permettrait à Claude Julien de vraiment rouler ces quatre trios, ce qui, à mon avis, c'est leur meilleure chance de gagner, c'est ça. C'est vraiment d'avoir un temps de jeu plus ou moins égal entre les quatre trios, puis juste compter sur leur énergie, puis leur vitesse, puis tout ce qui donne succès à cette équipe-là vers la fin des matchs contre les Pingouins qui vont sûrement donner plus de responsabilités, plus de temps de glace à leurs deux premiers trios. Il me semble que ça serait une stratégie qui a de l'allure, puis voir Domi sur le 4 pour l'instant, peut-être. Laisse croire que c'est ça que Claude Julien pense faire.
Ouais, ben écoute, il faut rappeler à nos auditeurs que cet épisode-là est enregistré avant la pratique de vendredi, donc il n'y a pas probablement que les formules pourraient être différentes vendredi, pourraient être différentes également à l'entraînement de lundi. Mais écoute, je pense que si Domi devait rester au centre du quatrième trio, ce serait un gaspillage éhonté à mes yeux, tandis que Kotkaniemi, qui lui essaie de se fait donner des chances finalement aux côtés de bons alliés, de montrer qu'il peut être un gars qui peut contribuer, qui est assez bon pour se retrouver dans cette chaise-là. Il y a eu jusqu'à maintenant une dizaine de jours pour le faire, mais il me semble y avoir une espèce de pivot possible entre Kotkaniemi, Evans et Dale Weiss pour déterminer. Il y en a un d'entre eux qui va être un centre, un d'entre eux qui va être un ailier gauche, puis un d'entre eux qui va être laissé de côté. Alors, je pense qu'il y en a deux sur trois là-dedans qui vont jouer, à mes yeux. Est-ce qu'en bout de ligne, la conclusion que le Canadien va apporter, c'est de dire, ben, on veut avoir Domi dans notre top 9, on veut donner du temps de glace à Kotkaniemi, donc on va le mettre sur un trio du côté gauche. Et puis à ce moment-là, ça pourrait mettre la situation de Dale Weiss en péril, puis on insère Evans au centre du quatrième trio. Mais sauf que de la manière que Claude Julien a parlé à propos d'Evans, il en parle comme un gars qui éventuellement pourrait venir donner un coup de main. Donc, il tient pas le discours de celui qui, à l'heure actuelle, va avoir son poste dans l'alignement.
Ben, non seulement qu'il pourrait éventuellement donner un coup de main, mais il a fait référence au fait que si on en a besoin. Tu sais, c'est pas comme... Tu sais, c'est un gars qui est une option seulement s'il y a quelque chose qui arrive où on a besoin de son aide. Tu sais, c'est pas vraiment quelqu'un qui... tu sais, il parle souvent de son noyau de joueur qu'il connaît bien, puis Evans... Clairement, il ne fait pas partie de ça, mais il a l'air d'être un gars qui est là en soutien, qui serait là pour aider si jamais il y a une blessure ou une absence non expliquée, tu sais, quelqu'un qui est pas prêt à participer, là, disons que ça arrive. Mais oui, c'est ça. Je pense que tu sais, le monde qu'on voit sur les unités spéciales nous donne aussi un indice. À qui va jouer, parce que encore une fois, il n'y a pas beaucoup de temps pour travailler sur les unités spéciales. Ça me surprendrait que, tu sais, c'est pour ça que quand tu vois Kotkaniemi et Domi et Jordan Wheel, par exemple, sur la deuxième unité du jeu de puissance, ça te laisse croire que ces gars-là vont jouer. Quand tu vois Jake Evans sur la troisième unité d'infériorité numérique à l'entraînement jeudi, c'est un autre indice qu'Evans n'est pas dans les plans pour l'instant. Et c'est ça. Alors, tu sais, je pense que ça commence à se concrétiser, que c'est pas mal, c'est oui, c'est Kotkaniemi qui vont jouer dans les trois que tu as mentionnés, puis que Evans serait quelqu'un qui serait appelé en renfort si jamais ils en ont besoin pendant la série ou s'il y a une blessure quelconque.
OK, ben écoute, à propos des... on va reparler tout à l'heure des unités spéciales, mais je serais curieux de savoir... Je sais que... Je vais t'amener sur une tangente complètement différente, mais on sait à quel point le Canadien croit au fait de pouvoir... rouler quatre trios, de pouvoir mettre de l'avant, de fonctionner avec sa profondeur pour améliorer les chances d'user l'adversaire. Mais est-ce qu'à quelque part, il n'y aurait pas une possibilité de dire que le Canadien se concentre sur ses trois premiers trios et en laisse beaucoup moins à son quatrième dans les circonstances? Tu sais, considérant le fait que tout le monde est reposé, considérant que c'est un 3 de 5 où le premier match va être tellement important, est-ce que dans le fond, il n'y a pas lieu, ne serait-ce que pour le premier match, de mettre tous ses œufs dans le même panier puis dire vider le réservoir dès le début, là?
Oui et non, parce que je pense que c'est au désavantage du Canadien d'essayer de faire ça. L'avantage du Canadien, à mes yeux, c'est le fait qu'ils ont des gars sur le quatrième trio ou pourraient avoir plus de gars, en fait, sur le quatrième trio, qui sont vraiment des joueurs que pour qui tu peux faire un argument qui ont leur place dans le top 9, tu sais. Et je pense pas que les Pingouins peuvent dire la même chose. Alors, dans le fond, je pense que la meilleure chance pour le Canadien de remporter cette série-là, c'est de jouer comme... c'est un match nul avec les deux premiers trios, puis vraiment de dominer les deux derniers trios des Pingouins avec des trios qui sont plus équilibrés, avec plus de talent, plus de vitesse, plus d'instinct offensif. et de maximiser leur énergie qu'ils vont avoir disponible en fin de match en particulier, ce qu'ils faisaient souvent en début de saison. Là, ça a l'air tellement loin là, dans notre tête, mais les six premières semaines de la saison, là, les troisièmes périodes, les Canadiens étaient vraiment, vraiment une équipe qui était difficile à affronter. Là, tu sais, la meilleure expression de Michel Therrien, là, mais c'était vrai. C'était difficile.
Dur à jouer contre.
Pour les... Dur à jouer contre, effectivement. Oui, j'ai corrigé Michel Therrien, là. Quelqu'un qui a ri de moi un jour quand il s'est rendu compte que je parlais au français. Mais anyway, ça c'est une autre histoire. Mais tu sais, c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense qu'il devrait mettre l'emphase là-dessus. C'est d'essayer d'épargner l'énergie des gars pour que le réservoir reste à plein en troisième période. Puis c'est là qu'il pourrait prendre avantage, tu sais, ils pourraient tirer avantage de cette situation-là en fin de match, en gardant leur énergie, puis en gardant leur rapidité et tout le rythme de jeu serait difficile pour les Penguins de contrer ça, à mon avis.
Ouais, c'est peut-être là où un gars, comme, par exemple, comme Jordan Will, qui a quand même, c'est pas le patineur le plus explosif, mais il y a quand même une certaine une agilité en possession de la rondelle. Il y a quelque chose qui, tu le regardes, t'as l'impression qu'il est plus rapide qu'il l'est en vrai. Il y a comme une vitesse qui est un petit peu peut-être trompeuse jusqu'à un certain point. Puis c'est le genre de gars que s'il ne joue pas beaucoup, ben plus tard dans le match, avec plus d'énergie, peut, et des adversaires qui, eux, sont plus fatigués, peut t'apporter un type de menace qui fait en sorte qu'offensivement, il peut t'en apporter un petit peu plus tard dans le match. T'sais. Fait que c'est...
Ouais, effectivement. Je pense que ce qui rend Jordan Will plus rapide qu'il l'est, en réalité, c'est qu'il prend souvent il prend des décisions rapides avec la rondelle. T'sais. Sans la rondelle, c'est une autre histoire, mais avec la rondelle, il est capable de prévoir... d'anticiper, dans le fond, ce qui va se passer, puis il est quand même assez intelligent avec la rondelle, puis il est capable de tu sais, c'est pas souvent qu'il garde la rondelle pour rien, tu sais, il garde la rondelle quand c'est le temps de le faire, mais il est capable de se débarrasser et de le mettre dans un endroit où un de ses coéquipiers sont sur le point d'arriver, et ça, c'est une de ses forces, alors c'est, je pense que c'est un autre aspect de son jeu qui le rend un peu plus rapide qu'il l'est en réellement.
Et puis d'ailleurs, à propos de Will, moi ça m'intrigue parce que à sa dernière saison, on peut dire sa dernière saison complète dans la Ligue américaine, il avait remporté la Coupe Calder avec les Monarchs de Manchester, le club école des Kings de Los Angeles. Il avait terminé premier marqueur de son équipe cette année-là. Et puis tu sais, on se demande tout le temps quel joueur pourrait se révéler lors des séries éliminatoires puis montrer que finalement il est un joueur amélioré par rapport à ce qu'on peut voir de lui en saison régulière. Puis je me dis, ben est-ce que Will peut être ce genre de joueur-là qui se dresse puis qui finalement est un peu une carte cachée. Tu sais, il a été une carte malheureusement un peu trop cachée en saison régulière, mais quand on regarde ses premiers matchs avec le Canadien, quand il était arrivé à la fin de la saison 2018-2019, il avait été tellement efficace. Si on retrouve un peu de ce joueur-là, même sur une courte période, parce que je pense pas que c'est un gars qui peut surprendre grand monde puis avoir un niveau d'efficacité là, à long terme qui soit très très élevé, mais sur une courte période, s'il revient un peu le genre de joueur qui était à la fin de la saison 2018-2019, il pourrait probablement surprendre de manière agréable, autant au plan offensif qu'au plan de l'efficacité dans la mise en jeu. Puis un avantage numérique également. Écoute, les statistiques avancées suggèrent que ce gars-là génère tellement de chances dangereuses de marquer. Il est pas capable de les mettre dans le fond du filet, mais il est une menace constante. Alors, je suis pas très surpris de le retrouver aussi sur la deuxième unité d'avantage numérique.
Non, ça c'est clair, mais et effectivement, il y a la possibilité d'être une carte cachée pour le Canadien. Autant qu'il y a la possibilité d'être que quelqu'un qui est complètement inutile à l'équipe puis qui fait rien, là. C'est comme, tu sais pas dans son cas, tu sais. C'est tout ou rien avec Jordan Will. Alors, si t'as la bonne version de Jordan Will, c'est sûr que c'est un gars qui peut aider l'équipe parce que dans le fond, il devient un joueur très dangereux, là. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'atouts qui peut aider une équipe. offensivement particulièrement, mais c'est aussi un gars qui peut juste s'endormir tout d'un coup pendant comme une semaine ou même une semaine et demie, tu sais, pendant 5-6 matchs. Il peut jouer, puis tu le vois pas. Non seulement que tu le vois pas, mais il prend de mauvaises décisions. Puis tu sais, Claude Julien a fait référence à ça jeudi, que tu sais, c'est surtout ses décisions sans la rondelle, puis où se placer, puis tout ça. Il y a comme des manques de concentration des fois quand il joue pas bien. Mais quand il joue bien, quand il a l'air de concentré sur son travail, c'est un joueur qui pourrait vraiment aider l'équipe. C'est juste une question de savoir, tu sais, quelle version Jordan Will on va voir. On a ces questions-là avec plusieurs joueurs du Canadien. Tu sais, quelle version Carey Price est-ce qu'on va voir? Quelle version Jonathan Drouin est-ce qu'on va voir? Et Jordan Will, c'en est une autre. Là. La constance, c'est pas une de ses grandes forces.
Non, puis c'est bizarre parce que c'est un gars qui, dans la vie de tous les jours, a tellement d'intensité. Tu sais, tu disais l'expression s'endormir. Moi, Jordan Will, je ne m'imagine pas Jordan Will s'endormir. Il est tellement absorbé dans sa tête, il peut y avoir un paquet de choses qui se passent qui font en sorte qu'il est inefficace sur la patinoire, mais c'est pas un gars qui m'apparaît comme étant qui s'assoupit parce que il y a tellement d'énergie et que des fois qu'il y a de la difficulté à canaliser, puis il y a tellement d'intensité que c'est des fois je pense que c'est au contraire c'est ces débordements là qu'il y a de la misère à gérer. Mais effectivement, on sait pas quelle version à laquelle s'attendre de lui, puis je me mets à la place de Claude Julien, puis je sais à quel point les entraîneurs n'aiment pas ne pas savoir à quoi s'en tenir dans leurs joueurs. Puis tu regardes en défense, c'est la même chose, t'as plusieurs joueurs, que ce soit Petrie, Kulak, s'il est en uniforme. T'as des gars que d'un match à l'autre, t'es pas trop certain du type de rendement qu'ils vont te donner parce que c'est des gars qui éprouvent des difficultés avec leur régularité. Puis, mon Dieu, j'ai l'impression d'être dans une annonce de Hall Brand quand je dis ça.
une chose que je peux dire sur Jordan Will, c'est qu'en ce moment, il a le meilleur cheveu de l'équipe. Là. Il a clairement pas coupé ses cheveux. Ça, c'est les nouvelles que nos auditeurs ont besoin de savoir.
C'est crucial.
Les cheveux de Jordan Will sont magnifiques en ce moment. C'est clair qu'il n'a pas coupé ses cheveux depuis que la quarantaine est commencée. Puis ça lui va très bien, je dirais. Et j'espère que ça va rester comme ça. J'espère qu'il ne coupera pas ses cheveux. C'est mon souhait. C'est vraiment, je suis sincère à cœur là, que je ne veux pas voir le cheveu de Jordan Will changer du tout d'ici la fin des séries.
Écoute, un autre qui était connu pour ses cheveux à l'époque, c'était Dale Weiss. Tu sais que là, il a pas sa longue tignasse blonde d'il y a quelques années, dans le temps où il avait fait des flamèches à son premier passage avec les Canadiens.
Non, c'est un businessman maintenant là.
Oui, c'est ça. Il est sérieux.
Il a un look à avoir là.
Ouais. Absolument. Ah, c'est ça. Avec le sac qui va avec. Écoute, mais cela étant dit, Dale Weiss, moi, c'est un autre gars qui m'intrigue. T'sais, pour l'instant, il a sa place donc sur le quatrième trio du Canadien jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est drôle parce que ce gars-là, on lui a parlé cette semaine, puis il m'apparaissait vraiment être à la croisée des chemins plus tôt cette saison. Et je crois que c'est un gars qui envisageait la fin de sa carrière dans la Ligue nationale puis qui était à peu près prêt à passer à autre chose. Et là, il y a comme un second souffle dans sa carrière, une chance ultime qui lui est donnée. J'ai bien hâte de voir s'il va être en mesure de la saisir, mais c'est intéressant de voir un gars qui était complètement sorti du portrait, qui avait peut-être un peu abandonné de son côté aussi en disant ben de toute façon là je vois bien que j'intéresse plus grand monde. Et puis là, du jour au lendemain, ben pas du jour au lendemain, mais en l'espace de peu de temps, les circonstances font en sorte qu'il se retrouve sur un trio de la Ligue nationale dans un contexte de séries éliminatoires. J'ai bien hâte de voir quel genre d'attitude il va, quel genre d'approche il va prendre pour pouvoir dire, ben, est-ce que j'utilise cette occasion-là pour prolonger ma carrière dans la Ligue nationale?
Ben, encore une fois, en regardant les unités spéciales jeudi, Derwy s'était jumelé à Paul Byron sur une deuxième unité d'infériorité numérique, ce qui encore une fois est un grand indice que Claude Julien tient à l'utiliser. Il y a aussi ses 40 matchs en carrière en séries éliminatoires. Il y en a pas beaucoup de gars sur cette équipe-là qui peuvent dire ça. Il y en a très peu, en fait. Alors ça, c'est une autre chose. Puis il y a une certaine historique de bien performer en série. Puis c'est un gars, encore une fois, tu sais, je l'ai mentionné plus tôt cette semaine dans une de mes textes, mais Derwis est le gars sur l'équipe qui rejoint, qui est le plus proche à être un joueur de quatrième trio que Claude Julien aime avoir. C'est le type de joueur qu'il aime avoir sur ses quatrièmes trios. Un gars qu'on dit pesant ou lourd, là, qui joue d'une façon comme ça. Dewey, c'est capable. T'sais, quand même un assez bon coup de patin, il est capable d'aller en échec avant, il est capable de finir ses mises en échec, il est capable à fournir des choses que Claude Julien aime avoir sur un quatrième trio. J'avais fait la suggestion dans un texte que peut-être qu'il n'y a plus besoin d'avoir ces choses-là, peut-être que c'est une chose du passé, puis ça serait une opportunité d'essayer de quelque chose d'autre, effectivement en mettant un Jake Evans à l'aile ou un Kotkaniemi à l'aile sur le quatrième trio, et juste se baser sur les habiletés, sur l'offensive, un peu sur les quatre trios, mais ça n'a pas l'air d'être le cas en ce moment, au moins. Et ce qui me déçoit un peu, parce que je pense que c'était une opportunité pour Claude de revoir sa façon de penser de ses quatrièmes trios, mais Dewey, si tu regardes tout l'alignement, tout le roster, de même les joueurs qui jouent pas, peut-être Ryan Poehling pourrait être inclus dans ce groupe-là, mais c'est vraiment le gars qui est le plus proche au gars classique de quatrième trio que Claude Julien aime avoir sur son quatrième trio.
Mais penses-tu vraiment que dans les circonstances actuelles, avec le niveau d'inconnu qui attend les équipes dans l'environnement de Toronto puis de Edmonton, qu'un coach comme Claude Julien dirait « c'est le bon moment pour essayer quelque chose de nouveau puis de m'éloigner de ce à quoi je crois? » Il me semble que s'il y a un moment où on peut s'attendre à ce que Claude Julien soit conservateur, c'est bien en ce moment-là.
Oui, mais quand t'as pas le personnel, t'as pas le personnel, là. Mettre Dewey sur son quatrième trio, ça va pas lui donner un quatrième trio comme un quatrième trio qu'il est habitué, là. Ça change pas le fait que t'as quand même Max Domi au centre pour le moment. Disons que c'est Jesperi Kotkaniemi à un moment donné. Disons que c'est Jake Evans à un moment donné. Peu importe. Jordan Wheel, joueur de centre, plus Dewey, égale pas le quatrième trio que Claude Julien a toujours connu. Non. Le quatrième trio qu'il a connu pendant la saison régulière avec Nate Thompson, des fois Nick Cousins. Tu sais, des gars vraiment qui sont faits pour ça, qui sont faits pour jouer ce rôle-là que Claude... Et c'est pas seulement Claude, là, je veux pas que ça soit une critique de Claude. Il y a beaucoup d'entraîneurs dans la Ligue nationale qui apprécient ces genres de joueurs-là pour jouer ce rôle spécifique-là. Claude en étant un, et Claude étant un des entraîneurs que... Ça a été la base de son succès là, en grande partie. T'sais, quand les Bruins ont gagné la Coupe Stanley, le fameux trio Merlot, là, c'était reconnu autour de la Ligue comme le meilleur quatrième trio de la Ligue. Et Claude aimait ça. Il aimait avoir ces gars-là pour les utiliser dans certaines situations. Si Claude dire oui, c'est là ou non, ça ne change pas le fait qu'il ne peut pas utiliser son quatrième trio comme il le faisait avant. Alors, étant donné que c'est le cas, pourquoi pas changer ton quatrième trio vu que peu importe si oui c'est là, tu peux pas les utiliser comme tu aimerais le faire.
Non, mais est-ce qu'il a davantage des effectifs pour réinventer un quatrième trio puis en faire un trio à caractère plus offensif, quitte à ce qu'il soit un peu plus exposé défensivement? Je ne sais pas, tu sais, cette fameuse profondeur-là du Canadien, je trouve que à l'heure actuelle, je pense que ça va changer avec l'émergence de jeunes joueurs qui vont arriver au fur et à mesure. Mais tu sais, à partir du moment où tu dis ben un gars comme Ryan Poehling est pas prêt, ben dans le groupe de joueurs qui sont en guillemets prêts puis qui sont immédiatement disponibles pour avoir un impact sur les matchs, il y a pas énormément d'options. Je pense que ça explique entre autres pourquoi cette équipe-là a terminé au rang où elle a terminé cette année.
Oui, c'est vrai, mais c'est une T'sais, Claude, il aime se dire on a ce qu'on a, puis je vais travailler avec ce qu'on a. Et c'est juste ça que je dis là. Des fois, il faut que tu travailles avec ce que tu as, mais pour faire ça, il faut que tu changes un peu tes propres philosophies puis les adapter à ce que tu as. Puis en ce moment-là, Claude, il y a une équipe qui a beaucoup, il y a beaucoup d'attaquants similaires, t'sais, qu'on peut grouper comme t'es rapide, avec des habiletés offensives, peut-être pas de très grand gabarit, puis quelques joueurs qui sont bien, qui jouent bien dans partout sur la glace dans les deux zones et qui est capable d'être fiable défensivement. Puis je sais pas, tu sais, je dis pas que c'est pas nécessairement que Weiss nie à ça. Tu sais, Weiss, il y a quand même certaines habiletés offensives là. C'est pas comme il était quand il était comme à l'apogée de sa carrière, là, mais quand même, c'est pas un gars qui est comme complètement perdu en zone offensive, là, mais en même temps, ça vaut la peine de demander la question, est-ce que son expérience et son gabarit et son façon de jouer est plus avantageux aux Canadiens que un gars comme Jake Evans qui joue un jeu très intelligent, qui est capable de dépanner au centre, qui est capable de prendre des mises en jeu, qui est capable de tuer des punitions comme oui, c'est capable de le faire, et qui est plus jeune, et puis comme Claude Julien l'a dit jeudi, fait une grande partie de l'avenir de l'équipe. Mais comme Claude Julien a aussi dit, il refuse d'utiliser ces séries-là juste pour donner de l'expérience à des jeunes, puis il me semble que c'est de cette façon-là qu'il voit un peu le cas de Jake Evans, que la seule raison qu'il le mettrait là, c'est pour qu'il gagne en expérience, puis il refuse de faire ça.
Ben écoute, c'est une bonne question que tu poses là, puis je pense que on s'arrangera pour la poser à Claude au cours des prochains jours. Sortez vos peanuts et votre maïs soufflé, le baseball est de retour. Et oui, les gars retournent sur le losange cette semaine. Et même si vous ne pourrez pas organiser un voyage puis aller dans un stade, ben, il pourrait quand même y avoir beaucoup d'action dans le confort de votre foyer. DraftKings, le leader des sports fantasy quotidiens, vous envoie vous sur le terrain et vous donne la chance de jouer sans risque pour gagner des centaines de milliers de dollars. Si vous n'avez pas encore essayé, c'est facile de jouer au baseball fantasy. Il vous suffit de choisir 10 joueurs, de respecter un plafond salarial et d'accumuler des points à partir des coups sûrs, des points marqués, des retraits au bâton et d'autres statistiques. Il n'y a pas de meilleure façon de mettre vos connaissances de baseball à l'épreuve que de participer à une compétition où des centaines de milliers de dollars sont à l'enjeu. Et si le baseball n'est pas pour vous, mais inquiétez-vous pas, DraftKings vous propose beaucoup d'actions aussi en golf fantasy, avec le tournoi qui aura lieu en fin de semaine. Avec des millions de dollars à l'enjeu cette semaine, il n'y aura pas de meilleur endroit pour participer qu'avec DraftKings. Téléchargez l'application DraftKings maintenant et utilisez le code promotionnel RUN, R-U-N, pour avoir une chance gratuite d'obtenir une partie des millions de dollars qui sont à l'enjeu cette semaine avec votre premier dépôt. Encore une fois, utilisez le code promotionnel RUN pour avoir une chance gratuite d'obtenir une partie des millions de dollars à l'enjeu avec votre premier dépôt, seulement chez DraftKings. Le dépôt minimum requis est de 5 $. Des restrictions s'appliquent. Consultez DraftKings.com pour plus de détails.
Oui, on pourrait demander à Claude ça, mais ce qui était intéressant, je dis, c'est de voir pour la première fois un entraînement au complet dédié exclusivement aux unités spéciales. Puis, je pense que, plutôt cette semaine, tu avais demandé à Claude, je trouvais que c'est une question assez intéressante parce que à cause du fait que Claude, quand il dirigeait les Bruins, quand ils ont gagné la Coupe Stanley, il y avait le pire jeu de puissance de la Ligue. Parmi les équipes qui ont fait les séries cette année-là, c'était le pire jeu de puissance des séries. Puis ils ont gagné la Coupe Stanley. Il disait à l'époque que je préfère avoir une équipe qui est efficace à 5 contre 5 qu'avoir une équipe qui se fie sur un jeu de puissance, particulièrement quand les punitions sont plus rares en série, puis je pense qu'il a raison là-dessus. Mais la réalité du Canadien reste le même. C'est une équipe qui a de la difficulté à marquer. Il n'y a pas vraiment beaucoup de finition sur cette équipe-là. On continue à dire la même chose année après année, puis c'est aussi vrai cette année. Je pense qu'ils ont terminé 25e de la Ligue pour les pourcentages de tirs à 5 contre 5. Alors, si... Tu sais, pour d'être capable d'aller chercher des buts en jeu de puissance pour cette équipe-là est pas mal important, je pense. Particulièrement quand tu as une machine offensive de l'autre bord, tu vas avoir besoin des buts et le jeu de puissance peut aider à dépanner ça. Puis il y avait des ajustements pas mal intéressants, non seulement jeudi, mais pendant la dernière semaine, on commençait samedi, c'est la première fois qu'on a vu la première unité du jeu de puissance avec Nick Suzuki, avec Thomas Tatar et avec Shea Weber. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu pas mal toute la saison jusqu'à maintenant.
Non, effectivement. Puis je te dirais aussi que Jonathan Drouin et Suzuki n'ont pas été sur la même unité d'avantage numérique de toute la saison à peu près. Donc il y avait, c'est une formule nouvelle qui a été employé pour cette première unité-là. Je suis enthousiaste par rapport à cette première unité d'avantage numérique-là. J'ai l'impression que si si ces joueurs-là, qui sont d'abord et avant tout des fabricants de jeux, que ce soit... Je pense entre autres à Suzuki et à Drouin. Ils ont des bons lancers, mais leur réflexe en premier lieu, c'est de passer la rondelle. S'ils font confiance davantage à leur lancer, je pense que ça peut faire finalement de cette équipe-là une équipe plus dangereuse en supériorité numérique. Mais la clé du succès, puis c'est bizarre parce que c'est le même problème qu'on voit depuis que Shea Weber est arrivé à Montréal et c'est un problème qui n'a cessé de s'aggraver. C'est à quel point. Il forme une espèce de pôle d'attraction, un aimant, et on dirait que tous les jeux vont vers lui, et la rondelle va systématiquement vers lui. Il va falloir à un moment donné que les joueurs aient la créativité nécessaire pour pouvoir développer des jeux qui vont utiliser Weber davantage comme un... j'ai le terme en anglais qui me vient comme un decoy, c'est-à-dire comme un gars qui...
Possible.
Ben exactement, mais que dans le fond, alors que l'adversaire est devenu tellement habitué à tricher du côté de Weber que finalement on peut ouvrir de nouveaux espaces plus profondément dans la zone. Mais tu sais, c'est rien de neuf, sauf que c'est comme si tout le monde avait identifié le problème, mais que à part un court moment à la fin de la saison dernière quand Philippe Dano, Jordan Wheel et puis Yoel Armia, les trois ensemble, avaient réussi à former une espèce de petit triangle dans le bas de la zone, à la gauche du filet adverse. Ils ont généré quelques buts en avantage numérique, mais sinon, ça a été à peu près tout. Alors, je pense que la créativité des Suzuki, des Drouin, et puis avoir aussi deux assez bonnes gâchettes en Tatar et Gallagher, je pense que les ingrédients sont là pour que ces gars-là se secouent les puces un petit peu puis réussissent à trouver d'autres solutions que de dire simplement on va l'envoyer au gros à la ligne bleue.
Oui, mais une chose, oui, effectivement. Puis dans le fond, c'est ce que j'ai aperçu jeudi en particulier parce qu'on a vu le jeu de puissance, on a vu rien que ça dans le fond pendant une demi-heure de suite, c'est que le jeu, tu sais, ils ont l'air d'avoir la directive que le jeu va vers Suzuki. C'est Suzuki qui va organiser un peu comment le jeu de puissance se déroule. Ce qui est d'une façon, ce qui est cool de cette unité-là, c'est que dépendamment de quel côté de la glace la rondelle se retrouve, Tatar et Gallagher peuvent changer de place. Puis Tatar est dans le slot, là, il est le bumper, comme on dit en anglais. Puis Gallagher se retrouve d'habitude proche du filet. Mais si c'est Suzuki qui a la rondelle du côté droit, Gallagher a l'option de changer avec Tatar pour lui donner une option de one-timer. Alors là, t'as Gallagher qui peut lancer sur réception sur une passe de Suzuki. T'as Weber à la pointe qui peut lancer sur réception. Puis une autre chose que j'ai vu jeudi, c'est que Weber et Drouin changeaient de place souvent aussi. Alors des fois, c'était Drouin qui se retrouvait à la ligne bleue. Puis c'était Weber qui était dans le spot d'Ovechkin, disons, là, dans le cercle gauche. Alors, ça donne beaucoup, beaucoup d'options à Nick Suzuki. Et si jamais c'est Drouin de l'autre bord qui a la rondelle puis que c'est lui qui le contrôle, ben là, t'as Tatar qui est un gaucher puis lui, il peut tirer de réception du slot. Puis ou Drouin lui-même peut tirer. Mais c'est vraiment, j'avais vraiment l'impression que le Canadien s'alignait pour que la rondelle se retrouve sur le bâton de Suzuki du côté droit, ce qui est quand même assez remarquable. Tu sais, c'est un gars, c'est quand même un recrue, là. Puis Claude Julien, jeudi, a dit qu'il n'est pas un recrue. C'est la première fois qu'il l'a vraiment dit. Il a dit qu'il a gagné beaucoup d'expérience. Il a joué à peu près 70 matchs cette saison. Il a joué tous les matchs canadiens, en fait. Alors, il n'est pas vu comme un recrue. Claude Julien le voit plus comme un recrue. Il le voit comme un joueur de deuxième saison. Puis c'est quelque chose que nous, on en avait discuté, on en avait écrit là-dessus. Est-ce que Claude Julien va avoir cette réflexion-là sur lui? Mais là, ça a l'air clair. Là, ça a l'air vraiment évident parce que c'est vraiment Nick Suzuki qui est en charge. Et c'est quand même, c'est incroyable quand tu y penses. Il est en charge d'une unité qui inclut Shea Weber, qui inclut Jonathan Drouin, qui est quand même capable de faire ce job-là, de prendre ce rôle-là. Mais ça vraiment, moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'est Kirk Muller et Claude et tout le personnel d'entraîneur ont donné la directive à cette unité-là de faire en sorte que la rondelle se retrouve sur le bâton de Nick Suzuki pour qu'il puisse prendre des décisions. Et ça, c'est une bonne décision, à mon avis, de la part des entraîneurs, parce que c'est clair que Nick Suzuki est capable de faire ce job-là. Mais ça montre à quel point leur confiance dans ce joueur-là a vraiment monté depuis la dernière fois qu'on a vu cette équipe-là. Et Claude Julien a arrêté sans cesse de dire que Nick Suzuki avait frappé un mur.
Oui, ouais, c'est vrai. C'est excitant parce que je sais que la majorité des amateurs pensent à la... à la prochaine vague de joueurs des Canadiens, puis et on pense beaucoup plus aux jeunes joueurs et à l'avenir qu'au moment présent. Mais quand tu vois des décisions comme celles-là qui sont prises, c'est comme si le futur et le présent commençaient vraiment à s'arrimer ensemble. C'est le genre de choses qui rend le fait de suivre les Canadiens beaucoup plus excitant, parce que on reconnaît un talent chez ce gars-là, puis on est prêt à lui faire confiance, puis à dire, ben, on a essayé un tas de choses auparavant qui n'ont pas fonctionné, puis là, maintenant, ça va être à ton tour, le kid, de pouvoir nous aider à faire passer à relancer cet avantage numérique-là, puis finalement, à lui donner les outils dont elle a besoin. Mais c'est drôle parce que l'avantage numérique, là, on parle des difficultés de l'avantage numérique au moins depuis 2 ans, à quel point, entre autres, c'est abominable à domicile. Mais ce qu'on oublie peut-être dans tout ça, c'est que cette saison, le Canadien a eu le 3e meilleur avantage numérique de la Ligue à l'étranger, avec un pourcentage d'efficacité de 24,7%. D'efficacité. Je ne sais pas dans quelle mesure le groupe d'entraîneurs a réussi à avoir la réponse fondamentale, à savoir pourquoi il y a une si grosse différence entre le rendement à domicile puis le rendement sur la route. Est-ce que ça va au-delà du fait de dire à Montréal, on cherche le jeu parfait, ou on veut faire plaisir à la foule, ou la foule crie shoot, ou des affaires comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fondamental?
Ben, c'est ça que j'allais dire. Il y a personne qui sont en train de leur donner des conseils à chaque 2 secondes, de lancer la rondelle.
Ça. Ça doit être. Ouais, mais là, écoute.
Imagine t'as 20 000 personnes qui sont en train de te dire de lancer la rondelle à chaque fois que tu le touches. Là, ça doit être un peu. Ça doit être une distraction d'une certaine façon.
Mais là, mon point, c'est de dire qu'il y aura zéro personne dans l'aréna. Il y aura personne pour les crier shoot. Il y aura personne pour leur crier hey, gagne de pas bon. D'un bord comme de l'autre, et ils vont être en terrain neutre. Alors, j'ai hâte de voir si finalement ce sera pas. Tu sais, on disait tout à l'heure quel visage tel joueur va présenter. Mais quel visage l'avantage numérique du Canadien va présenter dans un environnement où finalement il y aura pas d'hostilité et il y aura pas non plus la pression de jouer à domicile. Dans le fond, si le Canadien sort un avantage numérique qui est plus proche de l'avantage numérique qu'on voit à l'étranger, ben là, subitement, il y a peut-être. On jase un peu plus sérieusement. On peut peut-être espérer qu'il puisse enfiler un but à quelque part ou à un autre durant cette série-là pour venir lui donner un coup de main.
Il y a une autre chose que j'aimerais ajouter sur le fait que Suzuki et Weber se retrouvent sur la même unité du jeu de puissance. Là, je pense qu'ils ont joué à peu près 14 minutes pendant la saison là, sur le jeu de puissance ensemble, puis ils ont quand même, c'était 2 des 5 plus utilisés sur le jeu de puissance de toute l'équipe, là. Alors c'est quand même, c'était 2 joueurs qui étaient vraiment séparés sur le jeu de puissance pendant la saison régulière. Mais ce que je trouve intelligent dans cette décision-là, c'est que, tu sais, tu as mentionné tantôt que le Canadien n'est jamais capable de tirer un avantage du fait que l'équipe adverse donne le mandat à au moins un de ces gars en infériorité de garder un œil sur Weber. C'est certain qu'il y a une personne, sinon 2, les 2 en haut ben, dans le fond, c'est un diamant plus souvent que non maintenant, là, mais le gars en haut du diamant et le gars qui est un peu rover là-dedans ont le mandat de garder un œil sur Weber puis de ne pas le perdre. Ce qui, en principe, devrait donner plus d'espace à tes joueurs, aux 4 heures de joueurs, de trouver de l'espace pour trouver des chances de marquer. Le Canadien, ça, depuis l'arrivée de Weber, même avant l'arrivée de Weber, quand Piquet-Souban jouait dans ce rôle-là, le Canadien n'a jamais vraiment été capable de tirer un avantage de cette situation-là. Mais Suzuki me semble être un gars. C'est déjà, tu sais, sur son unité. C'est combien de fois qu'on a vu Suzuki trouver une ligne de passe entre toute l'infériorité numérique de l'équipe adverse pour trouver Thomas Tatar de l'autre bord pour un but. Là. Ça arrivait assez souvent. Et je pense que c'est un gars qui pourrait vraiment, vraiment prendre trouver un avantage avec toute l'attention que Weber est capable d'avoir dans le fond de l'équipe adverse. Il me semble que c'est le gars idéal pour faire ça. En plus du fait que tu sais, la déception dans son jeu de Suzuki, c'est une grande partie de ce qu'il rend habile, de ce qu'il rend imprévisible en jeu de puissance. Puis s'il y a une chose qui a vraiment, tu sais, fait mal au jeu de puissance du Canadien depuis beaucoup d'années, c'était le fait que c'était très prévisible. comme jeu de puissance. Puis une chose que je pense que une force de Suzuki, c'est effectivement le fait que c'est un joueur très imprévisible, particulièrement quand il a la rondelle sur la rondelle sur son bâton.
En fait, écoute, cette prévisibilité-là, je pense qu'elle existe, elle existe à date de l'avant d'arrivée de Weber. Je pense que les années où Markov était en santé, il ajoutait de l'imprévisibilité en s'offrant là, comme dans l'angle mort, en arrivant sournoisement derrière le gardien de but, puis en descendant plus bas dans la zone. Je pense que ça, c'était un élément qui était différent, mais je me souviens même, on parlait un peu de la même chose à l'époque de David Dernais, en disant comment ça se fait que le Canadien n'est pas capable de développer plus de menaces dans le bas de la zone en avantage numérique. Mais là, effectivement, probablement que c'est une ère nouvelle qui va commencer avec Suzuki. Mais là, je me demande, qu'est-ce qui reste pour la deuxième unité? Est-ce que le Canadien a un peu mis tous ses œufs dans le même panier? Parce que là, tu regardes la deuxième unité, il y a Max Domi qui finalement a un peu un rôle analogue à celui de Suzuki en étant au mur droit. Jeff Petrie à la pointe, que j'aime peut-être même plus que Weber, parce que je trouve qu'il y a plus de mobilité, meilleure aisance pour distribuer la rondelle, la faire changer de côté. Du côté gauche, à la place de Drouin, là, on a Jordan Wheel. Et tout à l'heure, tu me disais que sur la première unité, Tata et Gallagher pouvaient permuter entre celui qui est devant le filet et celui qui est au centre de l'enclave. Ben là, on pourrait avoir peut-être un peu la même chose sur la deuxième vague, avec Armia qui, pour l'instant, est campé dans l'enclave et Kotkaniemi dans l'enclave et Armia devant le filet. Mais ça pourrait, étant donné que Armia est droitier, il pourrait très bien changer de position avec Kotkaniemi, puis lui se placer en position de tir sur réception s'il est alimenté par Domi, quand Domi, lui, a la rondelle du côté droit. Donc, c'est un peu des patterns qui sont semblables, mais il y a beaucoup plus de droitiers du côté de la deuxième unité d'avantage numérique. Il y a Armia, il y a Petrie, il y a Wheel, donc ça peut quand même donner une dynamique qui est un peu différente de ce qu'on voit sur la première unité.
Ouais, c'est... je pense que c'est une unité intéressante. Ma seule crainte là-dedans, c'est que Kotkaniemi n'a pas vraiment démontré l'habilité de jouer dans le rôle de bumper, dans le gars qui est au milieu de la glace, dans le fond. Puis même, je le dis à l'entraînement, à chaque fois qu'il recevait la rondelle, il n'était pas dans une position de tirer. Il redonnait la rondelle directement au gars qui l'a passé la rondelle, peu importe... Pour être bien honnête, ça venait souvent du côté droit, là, alors il n'était pas dans une position de lancer, mais il n'a pas l'air à l'aise à cette position-là. Il a joué toute sa vie, puis il était très bon à l'aile gauche, dans le fond, sur le mur là, du côté gauche, pour effectivement diriger le jeu de puissance. Je me rappelle, assez tôt cette saison, première fois qu'ils l'ont utilisé dans ce rôle-là, puis je l'ai demandé, as-tu jamais joué là sur un jeu de puissance? Puis non, jamais de ma vie là. Alors, puis ça se voit, tu sais, ça se voyait aujourd'hui. Il n'est pas tout à fait à l'aise, puis il n'était pas très efficace non plus dans ce rôle-là. Alors, je me demande si, premièrement, s'il va être capable de garder ça, et sinon, est-ce qu'ils vont le mettre au mur puis pour voir s'il peut exploiter un peu plus d'espace puis avoir la rondelle un peu plus souvent. Parce qu'il est dans un rôle maintenant où t'as pas la rondelle sur ton bâton longtemps. C'est ou que tu reçois une passe puis tu tires, ou tu reçois une passe puis tu le passes encore. Alors, c'est pas vraiment un rôle pour un gars qui est habitué à manier la rondelle. Mais, tu sais, Claude Julien l'a dit, Philippe Dano l'a dit, tout le monde est en train de parler à quel point son lancer, c'est une menace, de Kotkaniemi, je veux dire. Mais il faut que lui ait la mentalité d'un tireur, là, puis je suis pas certain qu'il l'a encore. On verra comment ça développe, là, mais c'est vraiment... Je sais de l'avoir parlé plus tôt cette saison, il n'est pas tout à fait confortable dans cette position-là. Alors ça, c'est quelque chose à garder à l'œil si lui il reste dans ce rôle-là ou s'ils vont essayer de le mettre quelque part.
Il pourrait changer de place avec Will.
Un peu plus libre pour passer la rondelle.
Il pourrait changer de place avec Will.
Il pourrait facilement changer de place avec Will. Puis tu te rappelles, à un moment donné, tu sais, sa première année quand il est venu, Will jouait souvent à l'aile ou sur le mur du côté droit, tu sais, puis il y avait Dano en bas, puis il y avait Armia dans ce spot-là. Et tu sais, Armia, il y a un tir qui est mille fois meilleur que Jordan Wheel, mais oui, c'est vrai que Jordan Wheel pourrait facilement jouer dans ce rôle-là aussi, facilement, mais ça donnerait, Tu sais, je pense que ce qu'ils essayent de faire, c'est d'avoir un gaucher dans ce spot-là puis un droitier près du filet pour qu'ils puissent effectivement faire cette rotation-là. S'ils mettent Wheel là puis Armia en bas, ça lui donne deux droitiers puis ils pourraient plus faire ça.
Ben écoute, dans les premiers jours où on a vu cette deuxième unité-là, Arturi Lehkonen était quand même sur la patinoire puis restait dans les parages pour pouvoir écouter les instructions qui étaient données à cette unité-là. Donc, peut-être que c'est un gars aussi qu'on pourrait voir éventuellement se retrouver dans le rôle de bumper, puis être ce gaucher-là, finalement. Entre autres, si Kotkaniemi devait céder sa place.
Ouais. Ouais, absolument. Puis c'est un gars qui possède un bon tir aussi. Je sais qu'il y a plein de partisans qui ne veulent pas le croire. Puis c'est effectivement un gars qui rate la cible beaucoup, mais la qualité de son tir est quand même là. C'est vraiment un gars qui a un bon. Il est capable de dégainer la rondelle assez rapidement. Puis il y a de la vitesse sur son tir aussi.
Mais là, on décortique deux unités d'avantage numérique. On s'entend que ça donnera jamais ce que Crosby et Malkin peuvent donner de l'autre côté, du côté des Pingouins. Alors, si Claude Julien dit, moi, c'est plus important pour moi d'être dominant en 5 contre 5 qu'être efficace en avantage numérique, je sais qu'il valorise également l'infériorité numérique davantage que l'attaque à 5. Les compositions de ces unités d'infériorité numérique en ce moment, là, qu'est-ce que tu en penses?
Ben, premièrement, je pense que le Canadien, c'est vu que c'est très bien placé pour le Canadien la façon que les Pingouins organisent leur jeu de puissance. Là, le fait que Crosby, Malkin, Le Temps, Hornquist, eux autres qui mettent toutes leurs œufs dans le même panier, ben ça fait l'affaire du Canadien à mes yeux. Parce que les autres aussi le font en infériorité. T'sais, t'as Lehkonen, t'as Dano, t'as Sherrod, t'as Weber qui vont commencer pas mal toutes les infériorités. Puis Lehkonen et Dano, là, c'est à mes yeux. C'est une arme pour le Canadien. C'est, honnêtement, c'est tellement difficile à rentrer en zone offensive quand ces deux gars-là sont sur la glace et ils se complètent tellement bien en zone neutre. T'sais, c'est quasiment comme, disons que Philippe, c'est le premier gars en échec avant. Ça arrive tellement souvent qu'il dirige la rondelle vers Lehkonen pour que Lehkonen puisse venir puis ou causer un revirement ou dégager la rondelle. Mais vraiment, traverser la zone neutre contre ces deux attaquants-là, c'est très difficile. Sherrod Weber, disons qu'il avait eu certains défauts défensifs au fur et à mesure que la saison s'avançait, mais ça reste quand même que c'est un duo qui s'impose physiquement puis qui est dur à jouer contre. Alors ça fait en sorte que leur première unité d'infériorité numérique est bien composée pour contrer la première unité du jeu de puissance des Pingouins, parce que des deux bords, t'as toutes les œufs dans le même panier des deux bords. Alors ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire, mais je trouve que les Canadiens, dont la façon ils sont organisés, fait en sorte, parce que sur la deuxième unité, au moins jeudi, on a vu Paul Byron et Dale Weiss. Puis on a vu Kulak et Fleury, mais ça va fort probablement être Victor Mete et Jeff Petrie qui vont prendre ces deux places-là. C'est juste que Petrie était sur le jeu de puissance, puis Mete remplaçait Weber sur la première unité. Mais t'as une deuxième unité de Byron, Weiss, Mete, Petrie qui, encore une fois, va probablement affronter la deuxième unité des Pingouins, qui est pas mal beaucoup plus faible que le premier. Alors, je trouve que c'est bien organisé pour le Canadien d'avoir une chance dans cette bataille des unités spéciales-là, au moins en termes de l'infériorité contre leur supériorité qui est quand même assez formidable.
Je suis quand même étonné de voir Day-Lewis se retrouver en infériorité numérique, sachant que dans les 23 matchs qu'il a joué avec le Canadien cette saison, en moyenne, là, il a joué seulement 19 secondes par match en infériorité numérique. Ça, c'est moins.
Ben, je vais juste,
ajouter une seconde.
Ben, parce qu'on a mentionné le fait que Armia était sur la deuxième unité de jeu de puissance aussi, puis je porterais.
Ça devrait être Armia.
Je croirais que ça doit être Armia au lieu de Weiss, ouais. Mais c'était Weiss jeudi, mais Byron et Armia, ils ont quand même joué ensemble assez souvent pendant la saison, alors c'est ça. C'est bien que tu fais ce point-là, parce qu'effectivement, je pense que ce serait probablement Byron Armia sur la deuxième unité d'infirmière.
Oui, exact. J'ai hâte de revoir Byron. Tu sais, ça m'a frappé dans les séances d'entraînement auxquelles j'ai assisté que le coup de patin qu'on aime tant de Byron semble être revenu. Tu sais, pendant environ un an et demi, j'ai l'impression qu'il y avait comme la cinquième vitesse de plus qui lui permettait de se séparer des autres. Il la cherchait davantage. Tandis que là, j'ai l'impression que il est fringant comme le Paul Byron d'autrefois. J'ai hâte de voir si, en infériorité numérique, pour pouvoir forcer des revirements à la ligne bleue défensive, puis pouvoir peut-être provoquer une échappée, est-ce qu'il va être capable de ressusciter cette menace-là qui avait vraiment fait sa signature il y a peut-être 3 ou 4 ans, tu sais. Alors ça va être intéressant de voir ça.
Oui, puis je pense qu'en infériorité numérique, les Canadiens sont bien là. Ils sont bien équipés pour faire face à ce qui est un grand défi contre la supériorité numérique des Pingouins. Puis en supériorité, ça reste à voir.
Je prends une pause pour vous dire que le Super Athlétique vous est présenté par Manscaped, le leader dans le domaine des soins pour hommes sous la ceinture. Manscaped vous propose des outils de la plus grande précision pour s'occuper de vos bijoux de famille. Manscaped vient juste d'être lancé au Canada. Donc, chers auditeurs, vous pouvez être parmi les premiers Canadiens à faire l'expérience de produits qui vont changer votre vie. C'est pas tout le monde qui aime avoir un grand terrain et sortir sa tondeuse, son coupe-bordure, mais quand il s'agit de soins personnels, ça vaut la peine. Manscaped a lancé son Lawnmower 3.0 qui est fait exprès pour réduire les accidents d'épilation. Et en plus, il y a une technologie résistante à l'eau qui vous permet de l'utiliser dans la douche. Non seulement la pile dure jusqu'à 90 minutes, mais c'est possible de recharger le Lawnmower 3.0 avec une prise USB. Profitez de 20% de réduction et de la livraison gratuite en utilisant le code THEATHLETIC20 sur manscaped.com. M-A-N-S-C-A-P-E-D. C'est 20% de rabais avec la livraison gratuite sur manscaped.com. Vous n'avez qu'à utiliser le code THEATHLETIC20 et pour un temps limité, les abonnés ne reçoivent pas un, mais deux cadeaux gratuits. Le sac de voyage Shed d'une valeur de $39 et le caleçon boxer Manscaped haute performance qui est breveté contre les frottements. Alors rendez-vous sur manscaped.com dès aujourd'hui et utilisez le code THEATHLETIC20. Alors là, on a discuté du sort des 3e et 4e trios, des unités spéciales. Puis en terminant, je voulais qu'on révise peut-être rapidement la situation au niveau des duos en défense. C'est clair, net et précis que Weber et Sherratt vont jouer ensemble. Je suis pas certain que ce soit, dans le meilleur des mondes, la meilleure décision ou la meilleure combinaison possible, mais c'est clairement celle que Claude Julien préfère. Il dit que c'est pas plaisant d'affronter ce duo-là quand t'es l'autre équipe. Alors, Sherratt, Weber, c'est clair, net et précis. Après ça, ça devient déjà un petit peu plus délicat parce que Jeff Petrie, évidemment, va jouer à droite, mais son partenaire à gauche, son partenaire le plus fréquent au cours des deux dernières années, ça a été Brett Kulak. Mais est-ce que, dans quelle mesure, là, il recommence à peine à s'entraîner avec l'équipe? Est-ce que tu penses qu'il va avoir suffisamment de temps pour pouvoir retrouver son rythme puis d'être capable d'avoir le rythme de croisière du reste de l'équipe pour pouvoir se retrouver à occuper le poste à gauche sur le deuxième duo?
Ben, dans le fond, tu sais, ce qui est clair avec le Canadien, c'est qu'ils ont un top 3. Tu sais? Puis Claude l'a dit lui-même, là, il y a un top 3, puis après ça, on sait pas. Alors, c'est pas une situation qui est très rassurant si tu es un partisan du Canadien, puis ça doit pas être très rassurant pour Claude Julien lui-même. Tu sais, je pense que, vu que Brett Kulak a raté une semaine, tu sais, Victor Mété aussi était tenu à l'écart du groupe principal, là, mais je pense que le poste à côté de Jeff Petrie, ça semble être celui de Victor Mété pour l'instant. Et après, en troisième duo, qui sait ce qui va arriver là? T'sais, je sais pas si t'es d'accord, mais il me semble que le plus que le camp avançait, la possibilité de voir Christian Follin dans ce rôle-là, me semble que ça a diminué de peu à peu pendant que le camp avançait. Je sais pas ce que tu penses.
Oui, clairement, clairement. Puis écoute, j'ai bien aimé. Tu sais, Noah Jolson n'a rien fait de spectaculaire, mais il n'a pas non plus eu l'air d'un gars qui avait tellement de retard sur les autres que c'est comme on le regarde aller puis tu dis boy là il est en train de tu sais il pompe l'air ou il est encore en train de chercher sa place, il est vraiment pas loin, tu sais. Alors je pense que Jolson s'est montré compétitif. Mais à mon goût à moi, je pense que Cale Fleury demeure le gars qui est probablement le candidat de choix pour jouer à droite sur le troisième duo. Alors, je te dirais dans l'ordre, là, j'irais Fleury, Jolson, Follin à l'heure actuelle. Alors, c'est ce qui m'apparaît comme étant le plus probable.
Et je pense que, tu sais, juste en terminant, là, tu sais, c'est que on parle des duos en défense, puis toute la semaine, pendant une semaine et demie, dans le fond, on parle souvent, tu sais, Claude est demandé tout le temps, qu'est-ce qu'on va faire avec Crosby et Malkin? Qu'est-ce qu'on va faire avec Crosby et Malkin? Pour moi, là, le plus grand écart, tu sais, le plus grand faiblesse du Canadien, c'est quand tu regardes le brigade défensive du Canadien contre le brigade défensive des Pingouins. Tu sais, t'as Brian Dumoulin et Chris Letang sur le premier duo. T'as Jack Johnson, Justin Schultz, t'as deux jeunes, Marcus Pedersen et John Marino. John Marino qui a eu une saison recrue exceptionnelle cette année. Et c'est vraiment, il me semble que c'est vraiment là que, tu sais, tantôt, je disais que le Canadien devrait utiliser leur équilibre pour essayer de tirer un avantage contre les Pingouins. Ben l'équilibre du brigade défensive des Pingouins est beaucoup meilleur de loin, à mes yeux, que celui qu'on retrouve chez le Canadien.
Oui, ben écoute, je pense que tu mentionnes Marino, c'est un très, très bon exemple d'un défenseur qui va s'imposer de plus en plus avec les Pingouins. Jack Johnson, je pense que son étoile a beaucoup pâli. C'est un gars qui fait beaucoup d'erreurs. Et je pense qu'éventuellement, si les Pingouins trouvent une façon de l'utiliser le moins possible puis d'en faire un défenseur de troisième duo, ils seront pas fâchés de ça. Mais écoute, du côté du Canadien, le top 3 est tellement bien établi. Écoute, j'ai fait des calculs, puis il y a seulement les Prédateurs de Nashville dans toute la Ligue nationale qui, cette année, ont utilisé leurs trois défenseurs, 1, 2, 3, davantage en moyenne que le Canadien. Alors, ça veut dire que, tu sais, on parle, je crois qu'on est dans les 23 minutes 50 ou quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe avec la moyenne, là, mais Weber, Petrie et Sherrod prennent tellement, monopolisent tellement le temps de jeu qu'il en reste moins pour les autres après. Puis je pense que c'est vraiment la démonstration du fait qu'à l'heure actuelle, là, il y a encore du remplissage à faire. Puis c'est là où je comprends le Canadien d'être aussi enthousiaste par rapport à la venue d'Alexander Romanov la saison prochaine, parce que tu dis, ben oui, il y a un top 3, puis après ça, on verra. Mais si t'as un gars qui rapidement pourrait s'imposer puis dire, ben, je suis votre quatrième défenseur, puis après ça, tu dis, ben, sur notre troisième paire, on va forcer, dès la saison prochaine, une lutte à finir entre Fleury puis Jolson. Là, tu dis, ah, OK, ben là, on parle, on a des éléments qui peuvent être mis en place avec des jeunes joueurs qui vont améliorer notre brigade défensive. Mais à l'heure actuelle, face aux Penguins de Pittsburgh, il y a clairement un débalancement, là, tu sais.
Oui, absolument. Puis je pense que le même principe où, tu sais, en fin de match, tu sais, comme je disais, par rapport aux attaquants, tu sais, que le Canadien pourrait essayer de rester dans le jeu jusqu'en fin de match où leur énergie vont leur permettre de remporter le match en fin de match, ben, tu sais, le même principe s'applique aux défenseurs. Tu sais, Weber, on n'a pas besoin de le dire, il n'est pas super jeune, même Petrie non plus, tu sais, Sherrod, ils sont utilisés à profusion. Le plus long que le match avance, le plus qu'ils seront prônes à faire des erreurs, et tu sais, quand tu fais une erreur en défense, souvent ça se retrouve dans ton filet, là. Alors c'est comme, tu sais, trouver une façon, tu sais, c'était intéressant les calculs que tu as fait avec toutes les minutes qui sont disponibles dans un match et à quel point ces trois-là prennent beaucoup de ces minutes-là. Je pense que tu as tendance à créer une situation qui est comme propice à faire des erreurs. Et ça va être intéressant à voir si les 4 mois de repos vont permettre à Weber, Sherrod et Petrie de le faire sans ces erreurs mentales, souvent, là, quand t'es fatigué. Si le fatigue va pas s'appliquer à cause du fait que tous les repos qu'ils ont eus, là, mais je pense que les Pingouins en défense, tu parles de Jack Johnson, je suis entièrement d'accord, mais honnêtement, Jack Johnson, c'est leur pire problème, là. C'est le gars qui... Puis il est quand même, il est partenaire avec Justin Schultz, qui est quand même un bon défenseur, là. Alors c'est comme, puis il a ses qualités à lui, là. Il fait beaucoup d'erreurs, là, mais quand même, c'est un gars physique qui est capable de frapper du monde, puis capable de jouer d'une certaine façon. Et je pense que quand Jack Johnson est ton pire problème en défense, ça veut dire que ça va pas pire. Là.
Ouais.
Ça veut dire que c'est correct. Ouais, là. C'est, ouais.
C'est vrai. Mais écoute, c'est vrai que je pense que Claude Julien a mis la table par rapport au fait qu'il n'allait pas hésiter à utiliser à outrance des gars comme Weber et Petrie. Je m'attends à ce qu'il joue. Je m'attends à voir Weber jouer 27 minutes par match, à voir Petrie jouer 25 minutes par match. Le point d'interrogation dans tout ça, c'est Sherrod, parce que il a été une belle surprise pour les Canadiens cette année. Mais il a joué énormément plus qu'il l'avait jamais fait plus tôt dans sa carrière. Et je guette quand même un petit peu le moment où il pourrait y avoir un genre de retour sur terre. Parce que tu regardes, peu importe les combinaisons, là, il a toujours un peu tiré son duo vers le bas, que ce soit avec Weber ou avec un autre défenseur. Donc, ça peut. Est-ce que ça va tenir encore longtemps, cette heureuse surprise-là? Je suis intrigué par rapport à ça, puis je me dis, il y a peut-être encore Victor Mété, tu sais, on l'identifie souvent comme un gars qui pourrait potentiellement être échangé, puis servir de monnaie d'échange, mais pour l'instant, c'est quand même un gars qui est une soupape de sûreté pour aller peut-être remplir certains mandats du côté gauche, que ce soit avec Petrie, que ce soit avec Weber, si à un moment donné, la situation demande. Mais j'ai bien hâte de voir. Je pense que le Canadien jouerait avec le feu s'il se disait on peut utiliser autant Sherrod qu'on utilise Petrie. Je pense que s'ils font ça, ça risque peut-être de les rattraper.
Oui. Moi, je vais juste mentionner le nom de Carey Price parce qu'on a eu tout notre podcast, puis on s'en va en série, puis on n'a même pas mentionné le meilleur joueur du Canadien. Alors, je trouve qu'avant de finir, aujourd'hui, on devrait juste mentionner son nom. On n'a pas besoin d'en discuter. Carey Price, qui a pas mal eu l'entraînement off jeudi pendant tout le travail des unités spéciales. Lui a débarqué après avoir fait son petit warm-up avec Stephen Waite. Alors, c'est ça, Carey Price.
Voilà. Carey Price, bon, OK. Ben écoutez, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du Super Athlétique. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre magazine web quotidien, le plus grand magazine web de sport en Amérique du Nord, on vous invite à le faire. On couvre à peu près toutes les équipes professionnelles en Amérique du Nord, ainsi qu'au la Premier League d'Angleterre, évidemment, au soccer. Et puis, vous pouvez, en tant que qu'auditeur du Super Athlétique, bénéficiez de 40% de rabais sur la première année de votre abonnement en allant au athletic.com/superathletique et donc vous allez avoir 40% de rabais sur votre première année d'abonnement. J'ai bien hâte de voir la suite et la conclusion de ce camp-là, le match préparatoire contre les Maple Leafs de Toronto. Alors, on va se jaser de tout ça peut-être soit lors de notre prochain podcast ou encore par le biais de nos articles, évidemment, qu'on va écrire tout au long de la fin de ce camp-là, Harpin.
Oui, absolument. Puis j'ai hâte que ça commence. Ça va être le fun. Un match, un vrai match entre deux équipes adverses, mardi soir. Manque-le pas.
OK, c'est bon. Bye-bye tout le monde.